Ok, donc bonjour à tous. Donc je suis Audrey Mazure-Palandre et on va vous faire cette présentation avec Nathalie Bedouin parce qu'on est les responsables du projet Etudis. Donc pourquoi étudier la dyslexie chez le jeune adulte? On a commencé à en discuter tout à l'heure, mais effectivement, depuis le rapport Ringard en 2000, qui, avec une estimation de la prévalence à 6-8% de la population comme étant dyslexique, il y a eu un grand plan d'action lancé par le ministère de l'Éducation nationale afin de mieux dépister et mieux prendre en charge et proposer des aménagements adaptés aux enfants à l'école. Donc, du coup, cette population commence à arriver dans les universités. Il y a un accès qui est rendu plus évident aux études universitaires. Mais les symptômes persistent chez l'adulte, on va en parler. De plus, la dyslexie développementale chez l'adulte est quand même quelque chose de moins connu et moins étudié. On a des aménagements à l'université, mais on aimerait tenter avec... beaucoup d'humilité, en tout cas essayer de rétablir l'égalité des chances au sein des universités. Et donc, le projet Etudis est né de ce contexte-là, avec, comme l'a dit François Pellegrino ce matin, une demande de la part de la mission handicap de l'Université de Lyon, en la personne de Lucie Dumas. Et Lucie, Nathalie et moi-même, nous avons donc commencé à travailler ensemble. Et ça s'est concrétisé avec notre premier projet, le projet Etudis, qui voudrait répondre à la fois à des questions de recherche fondamentale, qu'est-ce que la dyslexie chez les jeunes adultes, et en recherche appliquée, afin de pouvoir proposer des remédiations adaptées aux jeunes adultes dyslexiques durant les études supérieures. Et enfin, on aimerait disposer d'arguments scientifiques et concrets pour favoriser la mise en place d'aménagements adaptés et réaliser des campagnes de sensibilisation et de formation, donc avec ce premier workshop notamment. Donc oui, au niveau des financements, on a obtenu un financement PEPS-CNRS. On a obtenu des financements de la part du laboratoire d'excellence ASLAN, de la mission handicap de l'Université de Lyon et des laboratoires dynamique du langage, DDL et ICAR, interaction, corpus, apprentissage et représentation. Au niveau des partenaires, donc il y a bien sûr des personnes du LabEx Aslan, il y a Jean-Philippe Lachaud du LabEx Cortex, il y a bien sûr Lucie de la mission handicap de l'UDL, il y a aussi l'ISH avec Céline Faure qui nous accompagne dans les traitements statistiques, notamment du questionnaire. Il y a aussi des praticiens hospitaliers et vous en avez rencontré deux aujourd'hui, donc Sybille Gonzalez-Monge qui a dû nous quitter pour cet après-midi mais qui était là ce matin, Raphaël Abadi qui vient de passer, et puis on avait aussi Lina Laplume.
Donc chez ces adultes dyslexiques, on a réalisé une enquête qui a permis de faire ressortir les principales plaintes et elles concernent La lecture avant tout, ça c'est pas très étonnant, une lecture trop lente, mais également des difficultés décrites par les personnes elles-mêmes comme une difficulté de compréhension. Elles se plaignent de ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Alors là se pose une vraie question de fond, s'agit-il de manière sous-jacente d'un véritable déficit de compréhension ou bien est-ce que c'est cette impression d'avoir des difficultés à comprendre lorsqu'on lit vient simplement de difficultés de décodage prenant trop d'énergie et de ressources par exemple, ou étant trop lent pour permettre une représentation, l'établissement d'une représentation cohérente. La troisième plainte importante concerne la concentration. Alors tout à l'heure, Raphaël a présenté un test qui a dû vous faire frémir, un test qui pendant 15 minutes demande de faire une tâche extrêmement rébarbative. Alors c'est fait exprès. Tous les tests de concentration visent à évaluer la capacité justement à tenir le coup dans ce genre de tâche et à maintenir son attention. Cette capacité de concentration, elle est très inégale entre les individus et c'est important de l'évaluer. On ne peut pas faire autrement que passer par là. Et c'est une des plaintes des adultes dyslexiques que d'échouer au quotidien dans les situations demandant ce genre de compétences. Alors l'interprétation de ces difficultés dont les étudiants dyslexiques, les adultes dyslexiques peuvent faire part sont difficiles à interpréter parce que elles peuvent être dues en partie à la dyslexie mais aussi à des troubles associés qu'on a évoqués déjà à plusieurs reprises et c'est difficile quelquefois de faire la part des choses. Ces difficultés peuvent être aussi quelquefois, je ne dirais pas imaginaires, mais elles peuvent être dues à une mauvaise interprétation de soi-même et de son propre fonctionnement parce que on a une estime de soi insuffisante ou qu'on perçoit une anxiété trop forte. Alors, il existe et il existait avant le projet Étudis quelques travaux présentant déjà des résultats sur des résultats d'enquête proposés à des adultes dyslexiques. Ces enquêtes sont néanmoins très peu nombreuses, souvent très courtes ou portant sur un point vraiment particulier. Nous, ce qu'on a voulu faire avec notre enquête, c'est aller un petit peu au-delà de ce qui avait été utilisé jusqu'à présent. Et tous les chercheurs qui ont publié des résultats d'enquête ont eu aussi la gentillesse et l'intelligence de nous dire ce qui n'avait pas marché dans les questions. Et ça nous a permis, je pense, d'éviter de perdre du temps à investiguer des domaines qui ne posent pas spécialement problème aux dyslexiques. Voilà. Je voulais terminer cette diapo en vous disant que d'après ce qui ressort des enquêtes antérieures à celles qu'on a faites, les jeunes adultes, on va dire, dyslexiques ne se décrivent pas que des défauts, mais lorsqu'on les interroge dessus, font souvent ressortir deux qualités qu'ils se reconnaissent et qu'on leur reconnaît aussi, bien sûr, c'est la persévérance et le sens des responsabilités. Alors l'objectif du projet Étudis, vous l'avez compris, c'était de mettre en place et de réaliser le questionnaire. Le questionnaire nous a permis d'obtenir plus de 1400 réponses parce qu'il a été diffusé à l'ensemble des étudiants de l'UDL. Et ce qu'on va vous présenter à l'issue de l'analyse des réponses, c'est les réponses de 97 étudiants dyslexiques qui ont participé à cette enquête, qu'on a pu apparier à 97 non-dyslexiques. Toujours pour essayer de préciser les spécificités des difficultés des étudiants dyslexiques, il y a le bilan dont Raphaël vient de vous faire part. Et à moyen terme, mais on est déjà là-dedans, on propose sur la base de ce que nous fournit le bilan, des remédiations plus personnalisées. Et puis on s'est depuis le départ engagé dans des actes, des activités de formation auprès d'enseignants ou comme aujourd'hui auprès d'un public un petit peu plus diversifié. Je te laisse la parole pour la description des trois étapes.
Alors, Étudis, c'est trois objectifs de recherche. Donc, vous l'avez compris, il y a eu une première étape, c'était l'enquête. On va en dire deux, trois mots par la suite, mais ça nous a permis d'avoir des données subjectives sur les difficultés ressenties par les étudiants dyslexiques. Comme vient de le dire Nathalie, donc on avait un groupe de 97 étudiants dyslexiques auxquels on a apparié un groupe d'étudiants non dyslexiques. On a également l'étape 2, le bilan neuropsychologique et orthophonique, qui nous permet d'objectiviser un petit peu les données subjectives de l'enquête, les difficultés ressenties par les étudiants dyslexiques, par le biais du bilan que Raphaël a décrit. Et puis la troisième étape, c'est une étude sur la production orale et écrite. Sous Étudis, c'était plutôt une étude pilote, et puis on l'a développée davantage dans le deuxième projet dont on va vous parler à la fin. Et l'objectif était d'évaluer la cohérence du discours et de voir quel type d'outils pouvaient être utilisés par les étudiants dyslexiques et si ils avaient une utilisation de ces outils différente des étudiants non dyslexiques. Et ceci dans le but, alors, pour l'enquête, d'une formation pour les enseignants, d'un MOOC où il y a une coquille. Le MOOC, on va vous en parler, c'est que à l'issue du projet Étudis, et au vu du contexte, en fait, on a soumis un projet pour créer un MOOC qui sera mis en place en janvier 2017, dont le porteur est Gérald Nicolai, qui est au fond de la salle, là-bas. Voilà. Et donc, c'est un projet qui est en collaboration avec Grenoble. Et on aimerait mettre en place, alors là, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, un stage de pré-rentrée spécifique aux étudiants dyslexiques, notamment pour les former à ce temps majoré. Voilà. Le bilan neuropsy et orthophonique nous a permis de mettre en place, enfin a permis surtout à Raphaël et Nathalie de mettre en place une mallette de tests neuropsy et ortho adaptée aux jeunes adultes. Il s'agit d'un bilan très complet et de concevoir et réaliser des remédiations adaptées. Et puis pour l'étude pilote sur la production, l'idée était de typer les difficultés rédactionnelles des dyslexiques et puis de penser bien sûr à des remédiations et des aides. Donc, concernant l'enquête étudis, ce qu'on voulait voir, c'est finalement, on peut tous avoir certains types de difficultés, mais lesquelles sont plus spécifiques aux étudiants dyslexiques. Donc, pour ce faire, on a élaboré un questionnaire avec le groupe de travail sur la dyslexie que Lucie Dumas avait créé, qui était constitué d'associations, mais aussi de personnes de mission handicap, enfin, voilà. Et donc, on a élaboré ce questionnaire de mai à août 2014, et après, il a été mis en ligne par l'ISH pour que les étudiants puissent répondre à ce questionnaire. Donc, c'était pour tout étudiant de l'Université de Lyon, dyslexique ou non, et les « ou non » nous a permis, après, de constituer notre population contrôle. Donc il y a eu une grosse campagne d'information qui a été réalisée par Lucie Dumas et le questionnaire a été mis à disposition de septembre à décembre 2014 et à partir de janvier 2015 on a donc pu passer au traitement des données. Alors quelques exemples de questions, je ne vais pas toutes les lire, mais on avait une partie diagnostique. Donc par exemple, avez-vous déjà eu un ou plusieurs diagnostics des troubles des apprentissages ? Et à partir de là, on avait tout un tas de sous-questions qui apparaissaient. Au cours de votre parcours, avez-vous eu des aménagements ? Et de là, bah, on allait un peu plus en précision dans les types d'aménagements. Sur la vie universitaire, on posait des questions aussi bien sur la gestion de l'espace, le bien-être. Donc, par exemple, avez-vous des difficultés à vous orienter dans votre établissement ? Vous arrive-t-il souvent de vous perdre, oublier vos documents nécessaires en cours ? Donc, voilà, on avait des questions assez générales comme ça. Et puis, on a eu toute une partie sur des questions sur l'agenda, parce que il nous semblait que c'était... Enfin, on avait entendu parler d'une certaine difficulté pour les étudiants dyslexiques à s'organiser dans le temps. Et finalement, pour ce questionnaire, pour les étudiants dyslexiques qui ont répondu à ce questionnaire, il n'y avait pas de différence significative entre les étudiants dyslexiques et le groupe contrôle. Donc on avait aussi questions sur l'organisation et la gestion du temps, que ce soit en cours ou en examen. Vous arrive-t-il d'arriver en retard en cours ? Avez-vous des difficultés à réaliser le travail demandé en temps voulu ? Des questions sur les apprentissages dans l'enseignement supérieur ? Êtes-vous plus à l'aise en TD ou en CM ? Des questions sur les types de difficultés ressenties à l'écrit ? Réussissez-vous à prendre le cours en entier en prise de notes ? On va revenir sur ces questions parce que du coup, pour toutes les questions où il y avait des résultats significatifs entre notre groupe contrôle et le groupe d'étudiants dyslexiques, on va vous présenter les résultats. On avait des questions sur les difficultés attentionnelles. À quel point avez-vous des difficultés à cumuler prise de notes, écoute et suivi de diapositives, par exemple ? Donc, l'enquête à l'Université de Lyon a été menée dans 17 établissements. Comme le disait tout à l'heure Nathalie, 1454 réponses, dont 120 étudiants dyslexiques. Néanmoins, on a travaillé avec un groupe de 97 étudiants dyslexiques. Donc, ça veut dire qu'on en a écarté un peu. On les a pas abandonnés, mais au vu des réponses dans le questionnaire, il nous a semblé qu'ils avaient un trouble associé. Donc, on les a orientés vers, notamment pour les TDAH, vers une autre étudiante qui travaille, Agathe Marquestel. Je crois qu'elle, je l'ai vu arriver. Non, si, elle est là-bas. Voilà, qui les a récupérés pour leur proposer des choses. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la dyslexie représente quand même un fort pourcentage du handicap. Et alors là, on vous présente, parce que dans le questionnaire, on demandait s'ils étaient inscrits à la MDPH. Donc, 80% disent que non. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a seulement un étudiant dyslexique sur deux qui se manifeste auprès de la mission handicap. Donc c'est c'est vraiment pas énorme. Et puis, selon le questionnaire, on a pu voir que finalement, les dyslexiques représentaient 38% de cette petite population. Les autres étaient associés à la dyslexie, à la dysorthographie pour 50%. Et finalement, les multidys représentent peu d'étudiants dys, puisque c'est 12%. En tout cas, pour les étudiants qui ont répondu au questionnaire. Donc l'échantillon, 97 étudiants dyslexiques, 97 étudiants non dyslexiques. On les a appariés en âge, en genre et en année d'études. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les TDAH ont été écartés. Et on n'a pas non plus pris les bilingues. Pour le bilan orthophonique, peut-être tu veux...
Oui, alors pour le bilan orthophonique, c'est un petit peu le même principe, avec un échantillon quand même plus réduit, parce que le bilan est très long. Alors 25 étudiants dyslexiques ont accepté de participer à ce bilan, c'est bien sûr sur la base du volontariat. Voilà, mais enfin, ils bénéficient du coup d'un complément de bilan conséquent, de manière gratuite, et la plupart sont très contents d'apprendre de nouvelles choses sur leurs difficultés, mais aussi leurs points forts. Pour aujourd'hui, il n'était pas possible de vous présenter l'analyse des données sur les 25, mais on a une analyse de données sur 16 étudiants dyslexiques et leurs 16 contrôles. Vous l'avez compris, il y a un focus qui est fait sur l'attention dans ces bilans, et il a été présenté de manière précise tout à l'heure. Il est composé à la fois de tests étalonnés utilisés en routine clinique, mais aussi d'épreuves expérimentales. Certaines ont été présentées ce matin. Voilà. L'aspect orthophonique du bilan essayait de répondre avant tout à une question. Qu'en est-il des difficultés à l'écrit une fois qu'on est étudiant? Ce qui veut dire que on a été obligé de quand même beaucoup sélectionner le type de test de nature orthophonique pour que ce soit quand même pas trop long. L'objectif étant d'essayer de typer la dyslexie quand même, malgré cette légende qui dit qu'il n'est plus possible de typer la dyslexie au-delà de 17-18 ans. Et on voulait voir s'il était quand même possible de le faire, savoir si c'était plutôt un trouble de l'adressage, de l'assemblage, etc. Donc ça, c'est le bilan que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, pour le bilan en production, tu nous fais.
Alors, pour le bilan en production écrite et orale, on a le même échantillon que pour le bilan neuropsy. C'est-à-dire que quand Raphaël contactait les étudiants suite au remplissage du questionnaire, elle leur demandait s'ils voulaient continuer l'étude en faisant un bilan neuropsy, mais aussi en faisant une tâche psycholinguistique. Donc, ce sont les mêmes individus. Les données sont en cours de transcription et de codage, parce que du coup, les étudiants ont produit 4 types de textes après le visionnage d'une vidéo sur les problèmes entre les gens. Ils ont produit un texte narratif oral, un texte narratif écrit, un texte expositif oral et un texte expositif écrit. Ce qui fait qu'on a de nombreuses données. On a bientôt fini la transcription, donc on va pouvoir passer après à la phase de codage. Et donc, ce dans le but de pouvoir faire des analyses psycholinguistiques, à la fois sur des indicateurs généraux, comme tout simplement la longueur des textes, le nombre de clauses, mais aussi on peut penser à des indicateurs syntaxiques, les types de clauses utilisées, à la cohérence, au flux de l'information, aux erreurs, à l'écrit par exemple, on verra tout à l'heure, sur le débit, les pauses, ainsi de suite. Donc, ce que nous apprend l'enquête, c'est que en cours, les étudiants sont gênés par le bruit, qui peut même entraver leur compréhension du cours. Il y a des difficultés à prendre le cours en prise de notes et une impression de cumul des tâches, c'est-à-dire prendre des notes, écouter l'enseignant et regarder des slides. Ça devient compliqué. Il y a des difficultés à comprendre le discours oral de l'enseignant. Il y a des difficultés à écrire et parler l'anglais. En examen, on note qu'il y a des difficultés à comprendre les consignes écrites, que ce soit pour des questions de vocabulaire et de syntaxe. Il y a des difficultés à organiser le temps. Il y a des difficultés en rédaction, en orthographe, en recherche lexicale, en organisation du discours. Il y a un manque de temps et de la fatigabilité. qui est exprimée par les étudiants. Les étudiants dyslexiques se disent aussi comme ayant des difficultés en expression orale, ça en concerne beaucoup moins, mais notamment en recherche lexicale, en construction grammaticale, utilisation de mots inadéquats et inversement de syllabes. Et puis il y a un fort sentiment de décalage entre la note obtenue et le travail fourni. Tout ceci nous interroge donc en termes de, par exemple pour la gêne occasionnée par le bruit, en termes de distractibilité. Les difficultés de prise de notes nous interrogent sur l'écriture en, de mots. Les difficultés à écrire et parler anglais, ça va être, ça constitue un des objectifs de notre nouveau projet, le projet Desirable, dont on dira deux mots tout à l'heure. Les difficultés à comprendre les consignes écrites nous interrogent sur le décodage des mots et des textes, sur la compréhension de textes. Les difficultés en rédaction nous interrogent sur la production orthographique et sur les stratégies rédactionnelles. Donc, concernant le bruit en cours au niveau de l'enquête, quand on leur a demandé aux étudiants « Êtes-vous gêné systématiquement par les bruits en cours ?», vous voyez que à peu près 20% des étudiants dyslexiques, qui sont donc en bleu sur le graphique, se disent systématiquement gênés par le bruit en cours, alors que ça doit atteindre peut-être 3-4% pour les étudiants contrôle. Donc là, à partir du moment où on vous présente les résultats, c'est qu'il s'avère, il s'agit de résultats significatifs entre les étudiants dyslexiques et la population contrôle. Et on voit également que pour les étudiants dyslexiques, ce bruit entrave la compréhension du cours beaucoup plus que pour les étudiants contrôle.
Alors, comme vous l'a expliqué Audrey il y a un instant, pour chacun des résultats significatifs dans l'enquête, chaque différence significative, on a essayé de faire un lien avec des anomalies qui ont été repérées dans les bilans. Ici, être gêné par le bruit, ça fait penser à une forte distractibilité. Donc, on a essayé de voir si, effectivement, dans le groupe de participants ayant fait le bilan, il y avait ou non une distractibilité pathologique. Pour évaluer la distractibilité, ce qui est utilisé dans ce bilan, c'est pas un test auditif, c'est un test visuel. Bon, c'est une faille des tests qui existent actuellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on met en place actuellement au laboratoire des tests auditifs. Donc bientôt, on va pouvoir évaluer tout ça, peut-être, évaluer la distractibilité d'une manière qui est beaucoup plus proche de la gêne qui est ressentie, notamment dans les situations de cours. Bon, on a fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a observé, c'est que ce test de distractibilité montre que en présence de distracteurs, les contrôles qui sont en jaune commettent moins de fausses alarmes. C'est-à-dire que tout se passe comme si le fait d'être en présence de distracteurs amenait à mieux se concentrer et donc à réduire son impulsivité pour bien répondre. C'est le contraire qui se passe pour les étudiants dyslexiques. Alors, on a été assez surpris de ce résultat, mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui pourrait traduire, et c'est là une piste intéressante pour nous aussi au niveau clinique, qui pourrait traduire non pas une impulsivité pathologique au sens où on peut la trouver dans le TDAH, mais un trait, on peut peut-être l'appeler comme ça, un trait impulsivité, c'est-à-dire une sorte de difficulté sous-jacente à contrôler volontairement ses gestes, ses paroles ou ses réponses. Voilà. Alors, ça fait un petit peu écho à ce que disait Sybille Gonzalez ce matin, quand elle disait que finalement, quand les personnes 10 grandissent et deviennent adultes, souvent on voit apparaître seulement à l'âge adulte des difficultés dans le domaine des fonctions exécutives, et il s'agit bien là d'une difficulté dans le domaine des fonctions exécutives. Pour appuyer cette interprétation, on est allé chercher dans d'autres tests, l'impulsivité est évaluée dans le bilan, et effectivement, les dyslexiques commettent plus de fausses alarmes que leur contrôle aussi dans ce test qui évalue plus directement l'impulsivité. Et enfin, dans le test de maintien de l'attention, qui dure une quinzaine de minutes, que ce soit dans le premier tiers, le deuxième ou le troisième tiers du test, davantage de fausses alarmes sont produites par les étudiants dyslexiques. Alors, on n'est pas en train de dire qu'ils sont tous TDAH, mais ils sont quand même un petit peu limites par rapport à ce contrôle de l'impulsivité. On n'est pas dans le TDAH, comme je disais tout à l'heure. Je vais passer rapidement sur ce point-là. Mais est-ce qu'on peut recommander aux enseignants ou aux personnes concernées par les dyslexiques par rapport à ce résultat, c'est plus que jamais d'essayer d'assurer à tout prix calme et silence dans le cadre des cours. Bon, on sait que c'est pas très facile. On peut aussi donner des recommandations aux étudiants. Et là, ça marche assez bien. Alors moi, j'ai essayé, finalement, ça marche assez bien, pas seulement pour les dyslexiques, mais aussi pour les autres. Se mettre devant, se manifester, c'est souvent des choses pour lesquelles les étudiants ont des réticences. Par contre, quand on leur explique que le jour de l'examen, ils peuvent très bien mettre des boules-quies, ça marche. Ils le font de plus en plus et ça peut vraiment aider des étudiants qui pourraient être particulièrement gênés par les distracteurs. Voilà. Pour ce qui est des éléments dans le relatifs aux examens écrits, il y avait une question dans l'enquête qui demandait « Est-ce que vous avez des problèmes de compréhension du sujet écrit en examen ?» Alors on voit que oui, les étudiants dyslexiques disent ressentir plus de difficultés que les autres pour comprendre les questions d'examen. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut y avoir des difficultés de traitement sémantique, des difficultés pures de compréhension, mais peut-être aussi, comme le sujet est présenté à l'écrit, de simples difficultés de décodage. Alors, pour essayer de faire la part des choses, on peut se tourner vers les différents types de tests. On a vu tout à l'heure que dans le test de lecture du vol du PC, le texte a une signification et après on pose tout un tas de questions de compréhension. Il n'y a pas un seul de ces items évaluant la compréhension pour lequel les dyslexiques se soient démarqués des étudiants non dyslexiques. Ils ne sont pas pathologiques du tout pour la compréhension sémantique. En revanche, lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau du décodage, bien qu'ils aient accédé aux études supérieures, qu'ils aient le bac, qu'ils soient finalement des personnes qui ont été quand même beaucoup en contact avec l'écrit, on observe une lenteur pathologique pour l'identification des mots à l'écrit, qu'il s'agisse de mots réguliers, de mots irréguliers ou de pseudo-mots. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que cette lenteur, elle s'accompagne, de ce que vous voyez sur la droite, qui est une absence de véritable problème sur l'exactitude en lecture. C'est-à-dire que dans la situation de test où on leur demande avant tout de faire attention de ne pas se tromper, les étudiants dyslexiques suivent bien cette consigne, ne font pas d'erreur, mais ça se fait au prix d'une grande lenteur dans le décodage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément clé de notre étude, je pense, c'est de montrer que un des gros problèmes des étudiants dyslexiques, ce n'est plus de ne pas être en mesure du tout de pouvoir identifier les mots. La plupart du temps, ils en sont capables, à condition qu'on ne leur mette pas de pression temporelle. Et ils peuvent arriver à faire cet ajustement rapidité-exactitude pour arriver à une exactitude tout à fait satisfaisante. Voilà. Alors, comment les aider dans les examens écrits ? En bref, on peut dire que apparemment, ils n'ont pas de problème fondamental de compréhension. Peut-être qu'on peut leur dire pour essayer de contribuer à restaurer leur confiance en eux-mêmes. Il persiste un certain nombre d'imperfections néanmoins, mais on peut commencer à les préciser. Les connaissances sur les liens dans le sens graphème, phonème restent déficitaires. C'est-à-dire que s'ils doivent lire à voix haute, par exemple, donc passer des graphèmes au phonème, de la forme orthographique à la forme sonore des mots, ils restent en difficulté. Ils sont également en difficulté lorsqu'on sollicite leur représentation orthographique lexicale. Donc, en tant qu'enseignant ou lecteur de quelqu'un qui a écrit et qui est dyslexique, on peut s'attendre à des erreurs d'écriture qui vont porter même sur des mots qui nous semblent extrêmement fréquents. Et ces erreurs, en fait, on peut donner des pistes aux enseignants pour leur apprendre à les repérer. Ce sont des erreurs qui nous intriguent en général. Ce sont des erreurs sur des mots comme « don », « donc », qui vont être des mots confondus, d'ailleurs aussi bien en production qu'en lecture, ce que ne fera plus un enfant de 8 ans qui a appris à lire sans problème particulier. Voilà. La question des mots nouveaux utilisés en cours à l'oral, alors on voulait faire un petit focus là-dessus. Souvent, à l'université, on apprend des concepts nouveaux. De nouveaux mots sont proposés, ils ne sont pas toujours présentés à l'écrit. C'est un petit peu dommage parce que on met vraiment en situation de difficulté plus particulièrement les étudiants dyslexiques parce qu'ils vont comprendre le concept, mémoriser la forme phonologique. Mais si le jour de l'examen, ils voient le mot écrit, il va y avoir pour eux un décalage beaucoup plus important entre l'écrit et l'oral que pour un autre étudiant. Et là, on les pénalise vraiment, véritablement. Voilà, donc pour les aider, la question du temps est fondamentale. Ce temps majoré, on peut les encourager à le solliciter, mais surtout essayer de réfléchir à des conseils d'utilisation, ça a été dit par plusieurs intervenants aujourd'hui. Une autre astuce qu'on peut proposer, c'est de demander aux surveillants, qui sont pas toujours les enseignants, hein, ça peut être des surveillants, c'est des étudiants quelquefois, enfin bon voilà, les surveillants, on peut leur demander, si le sujet n'est pas trop long, de le lire lentement à voix haute le jour de l'examen, ce qui permet là aussi de limiter les contresens. On peut aussi, non seulement pour tous les étudiants, mais plus particulièrement pour ceux qui sont dyslexiques, conseiller de prendre du temps pour vraiment lire le sujet d'examen, pour entourer, pour faire des liens entre les concepts, et prendre du temps aussi pour relire la copie, ça va de soi. Une dernière chose là-dessus par rapport aux examens, c'est la question des QCM. Très souvent, comme enseignant, on se dit, je vais faire un QCM, ça va pas être difficile, personne ne va être angoissé, tout va bien. Alors effectivement, ça aide la plupart des étudiants, mais vraiment pas les dyslexiques, parce qu'il y a beaucoup à lire dans un QCM, mine de rien. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est insister pour... Ça se fait peut-être plus dans une relation de confiance, s'il s'est manifesté et qu'on peut discuter avec lui, c'est encourager ses étudiants à tout prix à éviter une stratégie que beaucoup d'entre eux mettent en place spontanément, c'est des stratégies de devinement. Ils savent qu'ils sont en difficulté pour identifier les mots, alors ils se basent beaucoup sur le contexte, sur leurs connaissances, sur toute leur intelligence, pour deviner plutôt que décoder. Et ça, c'est très piégeux, hein, si je peux me permettre le terme, le jour d'un examen, parce que chaque mot compte et il suffit d'une lettre mal identifiée et paf, ça ne marche plus. On peut prouver que c'est un véritable problème grâce à un résultat du bilan qui montre que dans un test où les mots peuvent être devinés, le test du vol du PC qui est présenté ici, les dyslexiques sont moins performants que les contrôles, mais la différence entre dyslexique et contrôle est encore accrue dans le test de l'alouette où il est impossible de deviner et où lorsque l'on tente de deviner, on tombe dans des pièges. Donc on voit qu'effectivement, ils ont tendance à mettre en place une manière assez atypique de décoder le matériel écrit. Ils le font intelligemment puisqu'ils essayent d'exploiter le contexte et de deviner, mais en situation d'examen, on aurait vraiment intérêt à les décourager de continuer à faire ça. Je te passe la parole pour un autre élément de l'enquête.
Alors, dans l'enquête, on leur a également demandé s'ils avaient des difficultés à organiser le discours écrit. Et ce que relèvent les analyses, c'est qu'effectivement, les étudiants dyslexiques, en bleu sur le graphique, se déclarent comme ayant plus de difficultés à organiser le discours à l'écrit que les étudiants contrôle. Et ils se disent plus en difficulté en discours écrit qu'en discours oral, c'est-à-dire que à l'oral ils n'ont pas signalé cette difficulté. Donc là, c'était pour vous montrer. J'ai appuyé un peu tard, désolée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, les productions écrites et orales qu'on a demandé aux étudiants dyslexiques et aux étudiants contrôle, on va les analyser pour voir ce qui se passe au niveau de l'organisation du discours à l'écrit. Et pour ce faire, on va analyser différents types d'indicateurs. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. J'ai oublié les marques de travail de formulation, mais ça a à voir avec le débit, les reformulations, les répétitions, tout ça. Et ce, à l'écrit comme à l'oral, parce qu'à l'écrit, on a collecté les données sur des tablettes graphiques. Quand on leur demande s'ils ont des difficultés dans la recherche lexicale, dans la recherche de mots, encore une fois, là, les étudiants dyslexiques se disent plus en difficulté que les étudiants contrôle. Donc, il y a près de 40% des étudiants dyslexiques qui se disent en difficulté contre peut-être 4-5% des étudiants contrôle, alors que la tendance s'inverse pour la situation jamais. Donc, ceci rejoint les difficultés d'accès au lexique qu'on peut retrouver chez les enfants dyslexiques. Donc, ça veut dire que c'est une difficulté qui perdure. On a la même plainte à l'oral et c'est pour ça que souvent, les étudiants dyslexiques ont un délai de réponse et qu'il faut pas mal l'interpréter. Il faut juste leur laisser le temps d'accéder au lexique. Au niveau de l'enquête, quand on leur demande s'ils ont des difficultés de prise de notes en cours, la question exacte, me semble-t-il, était « Arrivez-vous à prendre le cours entier en prise de notes ?» Encore une fois, les étudiants dyslexiques et les étudiants contrôle se distinguent et on a plus de plaintes des étudiants dyslexiques. On voit que près de 80% des étudiants dyslexiques se disent souvent en difficulté. Donc en recherche, on met ça en lien avec différents types de compétences cognitives. Nathalie en a déjà parlé, comme Raphaël, mais la concentration, la flexibilité, l'esprit de synthèse, et puis tout ce problème au niveau de l'orthographe. Parce que prendre des notes, c'est cumuler plusieurs tâches. Et donc, si on cumule plusieurs tâches, dont une au moins est linguistique, on se rend bien compte que ça va être beaucoup plus difficile pour les étudiants dyslexiques. Au niveau du problème de l'orthographe, alors ça, on va rien, enfin, c'est pas très surprenant, on va rien vous apprendre, mais effectivement, les étudiants dyslexiques au niveau du questionnaire se disent beaucoup plus en difficulté que les étudiants contrôle et la différence est significative. Voilà, alors que les étudiants contrôle, près de 70% des étudiants contrôle n'ont jamais de problème avec l'orthographe, alors que près de, je sais pas, peut-être 75% des étudiants dyslexiques, eux, en ont souvent. Et là, je passe la parole à Nathalie. Pour...
Oui, alors finalement, l'enjeu de la mise en correspondance de ces deux résultats, c'est d'essayer de savoir si une partie des difficultés ressenties dans la prise de notes peut s'expliquer par l'importance des difficultés en production écrite, en production orthographique. On a quelques éléments dans le bilan qui nous permettent effectivement de dire que bien qu'ils soient étudiants, bien qu'ils soient adultes, du fait de leur dyslexie, ils ont encore d'énormes difficultés à trouver l'orthographe spécifique des mots. Ce n'est pas simplement une difficulté qu'ils ressentent, comme le montre le résultat du questionnaire, c'est aussi une difficulté que l'on peut évaluer objectivement. Sur ce graphique, on voit que de manière particulièrement nette pour les mots irréguliers, c'est-à-dire les mots qui ne s'écrivent pas exactement comme ils se prononcent ou l'inverse, ce sont des difficultés vraiment très importantes que ressentent encore ces dyslexiques. Et contrairement à ce que l'on a vu tout à l'heure pour la lecture, où on voyait que finalement, chez les dyslexiques étudiants, le lien entre les graphes le ralentissement en lecture pouvait arriver à compenser les difficultés de précision. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que non seulement ils sont inexacts lorsqu'ils doivent produire l'orthographe précise de mots, mais ils sont également très lents. Donc on voit que finalement chez les dyslexiques à l'université, un des messages à faire passer auprès des enseignants, c'est vous avez effectivement à faire à quelqu'un qui a des difficultés de lecture. Celles-ci peuvent être contournées par un ralentissement si vous leur laissez le temps de lire. Par contre, ce qui va rester vraiment difficile pour ces étudiants, c'est la production orthographique. Et ça, même en prenant beaucoup de temps, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils retrouvent l'orthographe exacte. Voilà. Par contre, on trouve qu'ils ont des performances qui peuvent être qualifiées de plutôt bonnes pour des dyslexiques. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde ce qui se passe pour l'écriture de pseudo-mots ou l'écriture de mots réguliers. Si on leur dit à l'oral un mot qui n'existe pas, ils sont capables d'en inventer l'orthographe, si vous voulez. Ils sont capables de produire à l'écrit quelque chose qui va être phonologiquement plausible. Mais le problème, c'est que comme ils n'ont pas de connaissances très précises de l'orthographe exacte des mots de la langue française ici, ils vont tomber à côté la plupart du temps si c'est un vrai mot rare, voilà. Et de là, leurs erreurs qui peuvent nous paraître étonnantes, y compris sur des mots fréquents à partir du moment où ils sont irréguliers. Donc en production écrite, on peut dire que les étudiants dyslexiques, sont dans des situations leur permettant une lecture ralentie, peuvent commettre moins d'erreurs, mais je l'ai mis dans une autre couleur, le ralentissement en écriture ne leur permet pas de compenser leurs erreurs en production orthographique. Ça, c'est une chose qu'on peut avoir bien en tête. Donc, je ne vais pas beaucoup insister sur le reste de la diapo parce que je l'ai expliqué il y a un instant et on en a parlé aussi un petit peu ce matin. C'est dû en particulier à une caractéristique de la langue française qui est une langue non pas tellement irrégulière, mais surtout une langue opaque, comportant beaucoup de mots inconsistants, c'est-à-dire beaucoup de mots qui s'écrivent de manière régulière, comme le mot « enfant », il est régulier par exemple, mais on pourrait l'écrire de tellement d'autres manières. Voilà. Et c'est ça qui explique certainement la permanence des difficultés en production écrite. Alors que faire? Quelles recommandations donner? La question du droit à l'ordinateur en examen a commencé à être discutée tout à l'heure. Moi j'enseigne en psychologie et en sciences cognitives, c'est sûr qu'on ne retire pas de points pour l'orthographe parce que de toute façon même en dehors de la dyslexie les étudiants sont pas très forts en orthographe et c'est pas dans notre façon de faire, mais il existe des disciplines dans lesquelles ce genre de choses se pratiquent. Alors on n'a pas du tout de conseils à donner par rapport à ça, mais c'est vraiment ça qui est en question quand même. Donc à un moment il va bien falloir que ce soit débattu parce que c'est particulièrement pénalisant pour les dyslexiques. Alors ce qu'on peut faire plutôt que d'avoir un discours injonctif normatif à l'égard des enseignants, on n'a pas, pas forcément le droit de faire ça, c'est peut-être leur donner quelques armes pour être en mesure de repérer des erreurs typiques de la dyslexie. Un étudiant, un jeune adulte qui a quand même réussi à passer le bac et qui écrit encore des mots de cette façon, même après s'être relu, c'est un étudiant qui est dyslexique. Parce que vous trouvez ici des erreurs qui portent sur des mots extrêmement fréquents, comme le mot « image », c'est un des premiers mots que les enfants apprennent à lire. Parfois, donc des mots fonctionnels, « enfant » écrit incorrectement, mais phonologiquement plausible. Beaucoup d'échanges entre des mots qui se prononcent de la même manière, « temps » et « temps », par exemple. Et puis, alors ça, c'est le petit truc que je vous donne, c'est surtout vrai pour les dyslexiques de surface, qui grandissent, hein, eux aussi. Toutes les expressions françaises de type « qu'est-ce que »,« puisque », tout ça, c'est très difficile pour eux de les lire et encore plus de les produire. Ils n'arrivent pas du tout à mémoriser l'orthographe de ces expressions. C'est un véritable cauchemar pour eux. Ils le disent d'ailleurs spontanément. Voilà. Alors pour la prise de notes, Audrey l'a dit tout à l'heure, on avait plusieurs questions en fait, et une de ces questions portait plus précisément sur la difficulté ressentie devant le cumul des tâches à faire. Et même en posant cette question de manière aussi directe, on voit que vraiment il y a un problème ici, et on peut l'interpréter en se disant que à partir du moment où dans une situation la personne dyslexique doit réaliser une tâche linguistique, elle n'a plus d'énergie et de ressources pour faire autre chose en parallèle, même si elle n'a pas fondamentalement de problème pour comprendre, pour organiser sa pensée ou pour synthétiser. Le fait d'être obligé d'avoir une activité linguistique en parallèle, écrire, eh bien voilà, ça devient insurmontable. Les recommandations, c'est tout ce qui est autour des supports de cours. Conseiller aux enseignants, ça c'est pas demander grand-chose finalement, hein, d'écrire et d'écrire plusieurs fois et de projeter plusieurs fois les mots qui correspondent aux nouveaux concepts, et aussi la question du débit de parole. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui. On sait que les difficultés de traitement du langage sont souvent liées à des difficultés de traitement du rythme. Or, dans la parole, il y a un rythme particulier. Il y a une certaine régularité. Et cette régularité, plus elle est marquée, plus elle favorise le décodage de la phrase. Je peux même, si je veux être sûre d'être entendue, accentuer la régularité de mon propos, et en général ça marche très bien. C'est un outil rhétorique que beaucoup de gens utilisent sans le savoir, et ça marche très bien. Par contre, ce qui est très difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les dyslexiques, c'est d'écouter un discours dans lequel d'un seul coup il va y avoir de la précipitation, ou au contraire où ça va changer comme ça. Voilà, c'est très gênant, c'est déplaisant, et c'est pratiquement impossible à décoder pour une personne dyslexique. Je te laisse pour les difficultés.
Alors, il nous reste pas beaucoup de temps pour le coup, donc on va sélectionner, je pense. Alors, là, on vous présente des résultats qui concernent pas beaucoup de dyslexiques. C'est les problèmes de compréhension du discours oral, mais ils concernent tout de même plus d'étudiants dyslexiques que d'étudiants contrôle, et la différence est significative. Donc, même si ça concerne moins d'étudiants dyslexiques, il faut bien prendre en considération que certains ont des problèmes de compréhension de discours oral, et on peut associer ces problèmes, ce ressenti, au début de parole dont on vient de parler, et on voit que dans le questionnaire que ça concerne 44% des étudiants qui se disent en difficulté en compréhension de discours oral, c'est 44% qui concernent le débit de parole. Pour 21% d'entre eux, il s'agit de confusion de mots. Donc on peut associer ça à de mauvaises conditions acoustiques. Et puis pour 35%, c'est plutôt le fil conducteur. Donc là, ce serait plutôt la difficulté de traitement syntaxique. Donc au niveau des recommandations aux étudiants, on peut leur recommander de travailler, vérifier leurs notes avec d'autres étudiants, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, alors rapidement, si on regarde à l'oral ce qui pêche, quand on leur demande « êtes-vous à l'aise pour trouver vos mots ?», on voit que 17% des dyslexiques ne sont jamais à l'aise contre 5% des contrôles. Quand on leur demande « êtes-vous à l'aise avec la construction grammaticale ?», on voit que 15% des étudiants dyslexiques ne sont jamais à l'aise contre 4% des contrôles. Et inversez-vous les syllabes des mots, on voit que ça concerne 2% des étudiants dyslexiques qui ne sont jamais à l'aise, et 21% qui sont de temps en temps embêtés, contre seulement 1% et 4% des contrôles. Donc ce sont des difficultés beaucoup moins fréquentes pour les dyslexiques, mais qui existent. Donc on peut se poser la question des troubles associés, on en a parlé tout à l'heure, ou un manque de confiance, la peur de bafouiller par exemple, et en plus qui n'est pas fondée, parce que dans le questionnaire on leur demande également s'ils ont peur de bafouiller, donc ils disent oui, on a peur de bafouiller, mais en revanche, ils disent ne pas bafouiller. Donc il y a quand même beaucoup d'anxiété. Donc les recommandations, donc on parle de l'écrit, on parle de l'oral, mais finalement, est-ce que l'examen oral est la seule solution, est toujours la solution, et est la solution pour tous les types de dyslexiques? Et puis, là, on en a déjà parlé dans la possibilité d'un délai dans la production verbale, ce temps qu'on leur donne pour construire leur réponse. Donc on a d'autres difficultés spécifiques aux étudiants dyslexiques, je vais les passer rapidement, on pourra en reparler. Donc il y a un fort ressenti, un ressenti d'un fort décalage entre la note obtenue et le travail fourni. Donc ça concerne plus de la moitié des étudiants dyslexiques. Donc on peut leur conseiller de la consultation des copies, qu'ils ne font que trop peu. Franchement, il n'y en a pas beaucoup des étudiants qui viennent nous demander de consulter les copies. On peut engager la discussion avec eux pour éviter que s'installent des frustrations, des malentendus, et faire comprendre que les difficultés, il y en a certaines qui s'expliquent, ou la mauvaise note, qui peuvent s'expliquer par les difficultés dues à la dyslexie, mais il peut y avoir aussi d'autres choses, hein, un manque de compréhension de certains aspects du cours, ou peu importe. Il faut rester dans des commentaires positifs et constructifs, bien sûr, et amener l'étudiant à parler éventuellement avec leurs enseignants de la dyslexie, mais ça, ils font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont des difficultés de répartition du temps entre les questions d'examen. Beaucoup plus les étudiants dyslexiques que les étudiants contrôle, comme on le voit sur le graphique. La différence est significative. Donc, on peut se dire qu'il y a un délai pour la recherche lexicale. Il y a aussi cette question des multidis. Est-ce que ça concerne les dyslexiques qui sont aussi dysorthographiques? Il faut aussi se dire qu'ils peuvent avoir une écriture lente, des déficits aussi de représentation du temps, ou alors des problèmes de planification. Donc ça, c'est toutes les interprétations qu'on peut faire suite à ce résultat. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est de dire aux étudiants de s'entraîner et de demander le temps majoré, et d'anticiper la gestion du temps et de l'effort. Donc ça, encore une fois, si on arrive à mettre en place un stage de pré-rentrée pour les étudiants dyslexiques, on pourra en parler. Et puis, pour les enseignants, afficher l'heure, rappel du temps, inciter à planifier les étapes de rédaction, affichage des points par question pour qu'ils puissent s'orienter, comprendre que la dyslexie n'est pas toujours seulement une difficulté à lire, mais qu'on a vu qu'il y avait des troubles associés, des petites difficultés autres. Je crois que c'est fini. Donc on avait aussi des ressentis de manque de temps en examen, de fatigabilité. Donc on parle du temps majoré, mais finalement, il se fatigue aussi très vite. On avait aussi des grosses difficultés à parler et à écrire en anglais. Alors c'est toujours le questionnaire, donc c'est du déclaratif, mais près de 70% des étudiants dyslexiques se disent en difficulté quand il faut parler et écrire anglais. Et donc là, ça va être un des objectifs du projet Disarable dont on vous parlera tout à l'heure, pour travailler sur cet aspect de l'écrit à l'université. Je vous remercie. Et puis, on finira après avec Nathalie pour des recommandations. On va cibler plus sur les recommandations dans la deuxième partie, après la pause, qui vous attend à côté. Merci.